Salut les zombies, encore une émission exceptionnelle aujourd'hui, mais avant, on m'a dérangé chez moi pour que je vous lise un communiqué. Mais c'est simplement pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui est présentée en partenariat avec Film Fanatique du marché Opus Saint-Michel au local 240 à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous manquer. Ils sont là pour de la vente, de l'achat et des échanges de films en tout genre. C'est parfait. Allez-y, ils sont excellents. Ensuite, on a Horreur Fanatique, la boutique connue aussi de jouets, de plein de choses en tout genre, au même endroit, juste en face, en fait. Mais ils font aussi un encan sur leur site internet, horreurfanatique.ca, tous les samedis de 18h à 23h. Donc ça aussi, ne manquez pas. Et on a aussi nos amis de la microbrasserie des bières philosophales de Mirabel. Là aussi, c'est pareil, allez-y, boire un coup, ça va être parfait. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'émission commence. On y va.
C'est la première fois qu'on ouvre le show avec le nouveau petit teaser de Sur la route de l'horreur.
Vraiment
Salut
cool.
tout le monde. Ouais, c'est vraiment le fun. En fait, Frisson nous avait demandé de leur faire un petit teaser pour le mois de juillet. Et vu qu'on a commencé nos tournages, enfin, on a pu ramasser quelques images. Et je vais vous avouer, on a triché un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'images dans le petit teaser, vu que ça fait pas longtemps qu'on a commencé le tournage, qui date de loin avec des petits téléphones et caméras homemade. Donc,
Ça
voilà, mais ça. Ça, ouais, ben ça montre qu'est-ce que ça va être nous qui se promènent sur la route de l'horreur en fait très très content de ça, très content aussi de notre invité de cette semaine.
Oh oui.
Nous avons avec nous Monsieur Pierre David qui a produit extrêmement beaucoup de films et réalisé quelques-uns aussi et certains films que vous connaissez vraiment beaucoup. On va découvrir ça avec Monsieur David dans quelques minutes. Mais avant, on va faire un petit tour de table horrifique pour savoir comment s'est passée votre semaine.
Yes. Qui commence? Tu veux que je commence? Je suis parti, là. Moi, là, j'ai...
Bienvenue au tour de table horrifique!
Hey, j'ai oublié, ben oui, c'est ça,
je me demande si El Zomblard fait exprès,
Non, mais en fait, je vais dire quelque chose. Je pense qu'El Zomblard avait oublié de partir le thème, parce que c'est moi qui l'ai parti cette semaine.
Ah!
J'ai un petit délai ici. Mais ce magnifique thème.
Ben
Vas-y,
oui,
Christophe.
Ben oui. Hein? Qui ça? Qui ça? Oh, juste, je suis en retard. Ah ouais, ça a commencé déjà. Bon, ben, je vous laisse faire, je reviens tout à l'heure. OK, c'est bon?
C'est bon, à tantôt. Fait que ouais, moi, j'allais dire que j'ai reçu plein d'affaires. Moi, je commande pas beaucoup en ligne. Moi, je suis un gars qui veut aller acheter dans les magasins, mais tu sais, évidemment, avec la pandémie, on essaie de moins sortir de chez nous, mais j'ai eu accès via les internets, Facebook, un contact qui dans le 16S, sa collection. J'ai réussi à me trouver une belle figurine du personnage de Nada, de Roddy Piper dans Daylive. Il est cœur, hein? Il vient avec son 12 à pompe, avec une face pas de lunettes et un gun. Je le trouve magnifique. Avec
des
vrais.
Pour le gun?
Peut-être, non, parce qu'il n'y avait plus de gomme. Hein? Il était venu pour botter des culs puis mâcher de la gomme. Il n'y avait plus
oui,
de gomme.
Vrai,
fait, il est là pour.
Ouais, Steve, écoute-les tes films, bordel.
Je me suis trouvé aussi une belle figurine de Chucky, là, bien dégueulasse. Là. Je pense que c'est dans le 2 hein, qui se ramasse comme ça, là, bien brûlé. Là.
Très belle.
Puis on le voit ici. Dans le 3, ce gars avec son moignon, avec un couteau à la place. Là.
Mais ça, c'est dans le 2, mais la face, c'est dans le 3.
Ah, ça, OK. Ça, c'est, ah, ouais, c'est un hybride des deux. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté le 2 puis le 3. Le 3, là, me semble qu'il est un peu plat.
Ah non, moi, j'adore le 3. J'aime bien.
Il ne peut pas être pire que Seed of Chucky.
ouais. Bright, c'était bon. Sinon, des films qui ne sont pas genre, ben, un peu, par la bande. Est-ce que vous avez déjà vu le film La Jetée? Non. Un film français qui a inspiré 12 Monkeys. 1960, si je ne m'abuse, 63, un beau Criterion, puis je ne l'ai jamais vu, j'ai trouvé ça pour pas trop cher, puis j'étais bien content. Puis, parce qu'on a eu la gang de ceux
Terreur sur le pod.
Terreur sur le pod, exactement. Ben, j'ai écouté plein d'épisodes, puis j'étais obligé de me commander le Scream Factory de My Bloody Valentine, que j'avais pas. Que j'avais en DVD, plein de versions. Là. Puis, parce qu'ils m'ont invité à aller jaser de The Burning, je me suis dit, ben, il va falloir que je l'écoute en Blu-ray, écouter tous les extras pour avoir de quoi à dire d'intéressant. Puis le dessin est vraiment nice. J'aime beaucoup The Burning. Ben oui.
Les prochaines Scream Factory sont top-notch.
Moi, je suis un peu puriste. J'aime ça que c'est le poster original, mais absolument, ils sont très nice.
Ouais, c'est bon, suivant.
Ben ouais, grosse semaine.
Là, moi, c'est une petite discussion bien vite faite, puis je voudrais demander aux gens qui écoutent de participer à ça, parce que je me suis toujours demandé une question sur les collectionneurs. Les gens aiment collectionner les films. Dans la communauté horreur, tu vois souvent ça, des gens qui ont des énormes collections. Moi, j'en ai 1500 ici. Il y en a que j'ai vu qu'il y avait un concours avec Film Fanatique, un de nos commanditaires, dans lequel... un des participants avec quelque chose comme 22 000 films. Là, je me suis dit, OK, est-ce que ces gens-là, ils collectionnent pour collectionner seulement, ou est-ce que ces gens-là collectionnent parce qu'ils regardent ces films-là? Parce qu'on s'entend, là, 22 000 films, là, c'est beaucoup d'écoutes de films, puis je pense que c'est même...
Attends, je te calcule ça vite fait, 22 000 plus une vie. Non, c'est pas possible, arrêtez!
Exactement ça, mon point. So, ce que je demande aux auditeurs, c'est, admettons que vous avez là, une grosse collection de films, ça peut être n'importe quoi des films, préférément films d'horreur, mais vous écoutez ça comment? Comme moi, ma collection, j'en ai 1500, mais je prends tous les films que je n'ai pas écoutés encore, je les mets sur une pile, puis à chaque matin, j'écoute un morceau. J'ai pas tout le temps de les écouter au complet, parce que le soir, c'est plate, mais en même temps, c'est le fun, parce que je passe du temps avec ma femme, puis quand je passe du temps avec ma femme, je peux pas écouter Hobgoblins, ou je peux pas écouter non plus Witchcraft 7 ou 17. Là, t'sais.
Martin, t'as encore oublié de parler de ta fille ce soir.
Je les écoute avec ma fille. Tu et vois, voilà. J'ai parlé d'elle. Et pour ceux qui ont une collection, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez une méthode pour écouter vos films malgré la grosse collection que vous avez, ou est-ce que votre collection est spécifiquement parce que vous collectionnez et non pas nécessairement parce que vous écoutez des films?
Moi, aussitôt que j'y reçois, je les écoute sur le champ.
Ouais.
pas du tout. Non, mais moi, je suis un peu, peut-être on en parlera éventuellement, mais moi, je suis un peu des deux, en fait. Il y en a que c'est pour écouter, il y en a que c'est parce que si j'ai un film, ben, puis il y a deux suites, on dirait qu'il faut que je les aille, donc voilà. On en parlera dans un en route. Parlant d'en route, ben en fait, moi, c'est ça, cette semaine, ma semaine... aucune réception, aucun achat, rien. C'est ce qui est très, très rare. C'est une petite semaine. Sauf que ben j'ai monté le petit teaser que vous venez de voir de Sur la route de l'horreur. Donc, j'ai monté ça entre deux périodes, entre les entraques de périodes de hockey. Voilà, le monteur en moi, c'est essayer de faire quelque chose qui était
donne vraiment le goût moi-même de l'écouter.
Ouais. Et quand que je disais tantôt que on va parler de ça dans un hors-route, ben c'est parce que juste pour comme ça, vous savez tous qu'on a un petit Patreon et qu'on met des extras qui passent pas ici en ondes. Et un de ces extras-là, c'est un épisode qu'on enregistre qui s'appelle le hors-route. En fait, le hors-route, c'est vraiment c'est nous qui discutons et qui parlons de films d'horreur, ce qui n'est pas vraiment le cas sur le podcast. On donne pas une opinion habituellement, des reviews, quelque chose comme ça sur des films qu'on aime. Donc, mais là, en route, c'est un peu différent. Puis le premier épisode qu'on a enregistré, Martin nous a posé plein de questions dans le style de « Même si je sais que tu adores ce film-là, tu dois me dire pourquoi que c'est le pire film de telle série. » Donc, c'était vraiment drôle. On s'en pas les questions. Puis je vous ai concocté un petit une minute. Donc, je vais vous lancer ça pour que vous regardiez, ça a l'air de quoi un petit peu le hors-route pour le fun.
Jason Goes to Hell est le pire vendredi 13 de la série. En une minute, tu dois me dire pourquoi il est, selon toi, le meilleur de la série.
Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est vraiment excellent. Parce que Jason, c'est un dead eye. Jason, c'est un dead eye, puis il n'y a rien qui accote Evil Dead. Est-ce que vous savez qui est l'acteur, le seul acteur qui a joué Jason et Freddy dans sa carrière?
Kane Hodder.
C'est Kane Hodder, parce que c'est Kane Hodder qui a le gant Freddy qui prend le masque.
En deux minutes, pourquoi Diary of the Dead est le meilleur film de zombies de George Romero, et ce, même si t'es pas d'accord?
Diary of the Dead?
Pourquoi la série Sharknado est l'une des séries B les plus populaires?
Franchement, j'ai eu peur pour ce film, c'était incroyable. Toutes les 30 secondes des jumpscares, mais des vrais qui font vraiment peur.
C'était très drôle, c'était très drôle de dire le contraire de nos opinions sur certains films et de d'être pris dans un coin.
Ouais, c'est bon, on le sait, on l'a vu passer, c'est bon. Moi, je vous dis vite fait, parce que moi, j'attends avec impatience Pierre David, hein. Ben oui. C'est que j'ai reçu ça, attention, le monstre arrive, Julien Céréon, qui nous a ressorti un livre sur George Romero qui se nomme « Révolution, zombie et chevalerie ».
Ça, alors, c'est une édition augmentée, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est une édition augmentée. Un nombre de pages incalculable. Il y en a 700 à peu près. Il y a des tas d'images dedans. C'est un pavé, une Bible. Wow. C'est monstrueux. Il faut absolument l'avoir pour tout bon collectionneur. Merci. Au revoir.
Mais ouais, ça me donne vraiment le goût de l'acheter. J'ai lu Massacre à la tronçonneuse. Là, c'est vraiment bien écrit. Julien Céveillon, qu'on aura sûrement éventuellement sur le podcast.
Ben oui, éventuellement, il va pouvoir venir. Mais là, cette semaine,
c'est
M. Pierre David que nous allons inviter dans quelques instants. Cependant, une petite chose, cette semaine, on va faire les choses un peu différentes. Parce que j'ai décidé, Christophe, de te faire plaisir. Je sais que tu adores beaucoup, beaucoup de films de David Cronenberg. Je sais que tu adores la biographie et filmographie de Pierre David aussi, parce que tu nous en parles souvent. Donc, j'ai décidé cette semaine de te laisser le lead de l'épisode durant que j'écoute le hockey. Non, c'est vrai. De te laisser le lead de l'épisode. Donc, je vais te laisser inviter M. David à se joindre à nous. Et it's your show tonight.
Parfait. Ben, bienvenue, Monsieur David. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour.
Ben, on va se tutoyer, hein, comme on a dit avant le show, là, on va faire ça tranquille. On est vraiment très, très fiers.
Yes! Salut, Pio!
Salut!
Exemple pour décontracter l'ambiance. Ben, on est très content de vous avoir sur le show aujourd'hui pour parler de 50 ans de carrière, est-ce que ça se peut? Hein? Il me semble, selon IMDb, plus de 200 crédits de films sur lesquels vous avez travaillé depuis autour de 71. Hein? Ça a commencé autour de ces années-là. Donc, évidemment, une heure, c'est assez tight. On va y aller. On va se concentrer, évidemment, sur les films d'horreur que vous avez produits et réalisés aussi. Donc, j'ai le goût, avant de faire votre petite bio, de vous poser une question. Pourquoi le cinéma de genre? Comment c'est arrivé dans votre vie, ça?
Tout dans ma vie s'est passé par accident. Je n'ai jamais fait de longue carrière. À 19 ans, j'allais en Afrique pour être professeur au Rwanda, pour essayer de savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie.
OK.
Fais ça pendant 2 ans. Première année, après, je suis allé dans le gouvernement du Rwanda.
OK.
Mais quand je suis revenu, j'ai dit, je vais aller dans les relations publiques. Et les relations publiques, ça m'a amené tout de suite à un poste qui n'existe plus, qui s'appelait CJMS.
OK.
Devenu
à la radio.
Directeur des événements spéciaux. Et pendant 8 ans, j'organisais des concerts partout, j'organisais des spectacles, je faisais les tournées Musicorama dans 50 villes du Québec.
Wow.
J'ai amené plein de chanteurs français, de Johnny Hallyday à Claude François, puis nommez-les.
OK.
Et un jour, le propriétaire de ce qui était devenu Radio Mutuelle, puisqu'on avait 8 ou 9 stations, m'a dit, ben, je veux me je veux qu'on ait une station de télévision, je vais faire application, puis on a besoin de films. Alors, tu connais-tu ça le film? Je dis pas vraiment. Ben, je dis, on s'en va à Cannes, on va acheter des films.
Alors, wow.
De là, ça m'a amené à aller à Cannes. J'ai acheté une couple de très mauvais films, mais j'ai compris comment ça marchait un peu. On a fait une entente avec les cinémas Odéon. On a commencé à sortir nos films. Comme on avait le financement de Radio Mutuelle qui était à peu près illimité à ce moment-là pour le cinéma, parce que c'était le dada du propriétaire, c'était en même temps ce qui s'appelait la période des tax shelters.
Oui, exactement.
Il y avait plus d'argent qu'il y avait de scénario. L'argent était chez les arbres. Il y en avait
pas. Ah oui.
Ah oui, c'était incroyable.
Ah, c'est fou. Et, je pense que c'était
à ce moment-là que Cinépix, une compagnie, mon grand compétiteur à ce moment-là,
André Ling,
oui. Avait fait des films de David Cronenberg qui s'appelaient Rabbit, Shivers, puis un autre, je ne me rappelle pas. Puis ça avait marché, mais ils avaient eu des problèmes de perception, de censure, de toutes sortes de choses.
Oui, les critiques avaient descendu à Shivers. Hein?
Oui, mais c'était plutôt qu'il y avait plein de questions qui se faisaient poser au gouvernement. Mm-hmm. Pourquoi vous financez, parce qu'il y avait le téléfilm dans le temps.
Exact.
Pourquoi vous financez ces films-là? Donc, Cinépix, ils cherchaient un peu qu'est-ce qu'il allait faire. Et quelqu'un que je connaissais bien à Toronto, qui est depuis décédé, Victor Sennicky, connaissait David Cronenberg et m'a appelé. Il m'a dit, bien, David a un bon sujet, mais Cinépix n'est pas prêt à le financer tout de suite. Alors, je l'ai lu le lendemain.
Ça, c'était The Brood.
J'ai tout de suite dit, on va le faire. Je suis allé rencontrer David à Toronto. On a trouvé l'argent en une semaine. Ça a été à toute vitesse. C'était pas cher, hein? C'était 1,8 million.
Ouais. Bon. OK. Ouais.
Il fallait le tourner avant la fin de l'année parce que c'était toutes ça faisait partie de toute l'affaire. Donc, on a fait The Brood.
Avec quand même Oliver Reed, là, qui venait jouer dans The Devils de Ken Russell.
Oui.
Tommy aussi, du même réalisateur. Il a joué pour Stuart Gordon. Même Ridley Scott par la suite, c'est comme un grand acteur, Oliver Reed. Il y a même Art Indall qui a joué dans Black Christmas. Il y avait des points sûrs, ouais, dans ce film-là.
On est désolé, Pierre, parce que Christophe, il laisse jamais parler les invités, mais on va le calmer. On va le calmer.
Faut que ça soit une conversation.
Et Samantha Eggert, qui avait un autre moment-là.
Tout à fait.
Puis plus tard, là, quand vous parlez d'anecdotes, rappelez-moi de vous parler d'Oliver Reed.
Oui, ben, allez-y,
bien entendu. Maintenant. Vous oubliez que j'en parle tout de suite. Ou
on en veut plein d'anecdotes.
On va attendre à tantôt.
OK, boss. Alors, on a donc fait le film et j'ai appris à connaître David Cronenberg,
mm-hmm.
qui m'a dit, ben, j'ai un projet plus important l'année prochaine. Il m'a donné un script qui n'a pas de goût. Mais qu'il y avait quelque chose de bien intéressant.
Ça, c'était Scanners.
Alors, on s'est mis à travailler ensemble dessus. C'était une expérience formidable.
Ah oui?
J'adore le développement de script. Et c'est devenu Scanners. Qu'on a tourné à Montréal.
Mm-hmm. Effectivement.
Ça a été l'un des pires tournages de ma vie, parce qu'on n'était pas prêts, parce qu'on ne savait pas comment faire exploser une tête, parce qu'il y avait plein d'affaires qu'on ne savait pas comment le faire, ni David, ni moi. On a appris, heureusement qu'on avait 5-6 millions de dollars, on a appris, non, 3 millions 8, on a appris sur le champ, sur le tas, comment faire le film.
Ah ouais?
On avait, oh, c'est, vous n'avez pas d'idée. On avait trois acteurs principaux.
Je me demandais justement.
Steve Black, qui ne savait pas jouer, qui n'était pas un acteur. Et qu'il a fallu que David lui fasse interpréter le film comme lui le voyait, comme lui était, parce qu'il ne pouvait pas jouer, il n'avait jamais acté de sa vie.
OK.
On avait Patrick McGowan, qui malheureusement est un alcoolique. Et qui ne peut pas travailler à partir du midi parce qu'il était ivre.
Wow!
Alors, on ne peut rien travailler avec lui le matin.
OK, il faut organiser l'horaire autour de lui.
Jennifer O'Neill, qui, tout en étant adorable, comprenait pas qu'elle jouait dans un film d'horreur, puis elle était horrifiée de faire des têtes qui explosent, puis tout ça. Alors, elle a voulu tout diminuer dans le film. Donc, on avait un groupe d'acteurs, croyez-moi, c'était pas facile.
Puis, Michael Ironside, vous l'avez trouvé comment?
Pardon?
Michael Ironside, comment vous l'avez trouvé?
Ça, c'est venu par notre casting director.
OK.
Et ça a été une découverte. Je l'ai tout de suite utilisé après dans un autre film d'horreur que j'ai fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Visiting Hours.
Qu'on voit ici en vidéo disque.
Ça, ça a cartonné au sujet, ça.
Ah ouais.
Ça a très bien marché, celui-là. Et puis, comment je l'ai vendu, c'est une autre anecdote bien intéressante. En tout cas...
Et pour revenir à Scanners avec la performance, on le voit même sur l'affiche. Hein, c'est bon, un peu retravaillé, là, mais très une affiche saisissante.
Moi, nous, on pensait...
Belle performance.
Bon, la fin ne marchait pas vraiment, le Scanners. Hein. Alors, on était à peu près convaincus qu'on avait un désastre sur les mains, mais on avait des choses de fun. Après avoir essayé 5 fois, durant 5 week-ends de suite, dans un entrepôt de Montréal, de faire exploser une tête, on y est arrivé parfaitement. Ça a été très difficile de trouver comment le faire. Il n'y avait personne qui nous le disait, ça n'avait jamais été fait. Finalement, la dynamite des petits morceaux, ben la tête, ça allait en plein de petits morceaux partout. On a eu plein de problèmes. Un autre système, la fumée au lieu de la tête. Alors, finalement, Gary Zeller, notre spécialiste de props, il s'est tanné au bout de 4 week-ends. Le 5e week-end, il a amené son shotgun, un petit shotgun. Il s'est mis en dessous de la passerelle avec un shotgun comme ça, il a tiré.
Wow. Donc,
3 caméras ont pris l'explosion de la tête et c'était extraordinaire.
C'est une des scènes. C'est une des scènes de
d'horreur.
La plus connue, que les gens, ça est toujours mis en guise d'exemple aussi. Là.
Ben c'est fou pareil, comment un film qui peut avoir
d'ailleurs, autant ça a tellement...
de problèmes populaire.
Oui.
Excuse. J'ai dit, c'est fou comment un film qui a eu autant de problèmes comme ça peut être un des meilleurs films de David Cronenberg.
Vous n'avez pas d'idée. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas au tournage qu'on juge la qualité du résultat d'un film.
Exact. Ben, ce que j'ai entendu souvent de beaucoup de réalisateurs, c'est qu'un film, on l'écrit 3 fois. On écrit le scénario, après ça, il y a le tournage, il arrive un paquet de trucs, puis après ça, il y a le montage aussi. Hein. 3 étapes super importantes.
Il y a une magie qui s'est opérée sur Scanners au montage. Ouais. Puis même pendant le tournage, on avait beaucoup de matériel. Et quand je suis parti avec le film aux États-Unis pour le vendre, Afco Embassy, le président d'un de mes amis, il m'a dit « Hey, c'est bon ça. » Mais ils ont payé pour retourner la fin, qu'on a tourné à Toronto d'ailleurs, le métro de Toronto, puis tout ça.
Okay.
On a mis un autre 100 000 là, pour faire la fin différente. Et après, on a présenté le film à un public cible, une salle de 800-900 personnes à Los Angeles. Et quand l'explosion de la tête s'est produite, ça a été l'hystérie collective.
Je vous le dis,
j'ai jamais vu ça. Et on avait mis des caméras
pour avoir les réactions des gens
avant, qui filmaient l'audience.
Wow!
Le film de leur réaction, se lever, crier, quand ils ont vu ça, on a décidé que le commercial du film à la télévision américaine, c'était quelque chose comme, 30 secondes, hein? Scanner s'en vient, vous n'aurez jamais vu quelque chose comme ça. Et là, on montrait la réaction de la foule à la scène.
Ah ouais, hein?
Oui. 2 semaines après, c'était le numéro 1 aux sorties de salle aux États-Unis. Hey, j'étais à New York, j'allais dans les plus gros cinémas dans le temps sur Times Square. Plein. Tout le monde criait. On a fait un drive-in dans le bout de Los Angeles. Dans ce temps-là, là, c'était 1,5 piastre ou quelque chose. Hein? 195 000 piastres en 3 jours dans un drive-in. Il n'avait pas vu ça depuis je ne sais pas combien de temps. On était numéro 1 ce week-end-là.
Wow.
Donc, un film où tout avait été mal d'une certaine façon a été un succès monumental.
Un beau happy ending.
je viens de regarder, durant qu'on parle, je viens de regarder le TV Spot parce qu'il est sur YouTube. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est, ouais, faut vous le regarder.
Cool, cool. Là, je pense qu'on a les questions en rafale.
Oui, mon petit Elzan Blard qui va nous partir ça.
Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale?
J'espère que vous n'êtes pas jaloux de nos thèmes, Monsieur David, parce que c'est cheap.
C'est un peu pour déstabiliser nos invités. C'est du bonbon, vraiment, les anecdotes de Scanners. Un Scanners qui est un film ultra important pour vous avec les suites qu'il y a eu par la suite. On va en reparler après. Mais pour les questions en rafale, c'est un peu pour apprendre à connaître les goûts, les intérêts, le côté fan de notre invité. Fait que c'est des petites questions. On pense pas trop. On répond. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit.
Toi non plus, pense pas trop, là. Pose-les tes questions.
Oui, si tu m'interromps pas trop, Elzan Blanc. OK, le dernier film d'horreur que vous avez visionné?
A Quiet Place.
Le premier film d'horreur que vous avez vu?
Je m'en rappelle pas.
Un des premiers, celui qui a fait émerger.
Écoutez, le film qui m'avait le plus marqué... Mais je peux rien que vous dire un peu la séquence parce que je me rappelle pas ce que c'était. C'est un film des années 40, 50, je sais pas quoi.
Okay.
Où une madame, vieille madame dans un château. C'est un classique, je pense.
Gothique.
Ça prend feu, puis la madame prend feu, puis son voile prend feu. C'est très... c'est un classique. Et j'en rêvais la nuit, tellement j'en avais peur de ce film-là. Parce qu'elle se promène dans sa robe de mariée. Vieille madame, le voile prend feu, tout prend feu, puis elle prend feu. Puis, que ça m'avait marqué, ça. Mais je me rappelle pas du titre.
Mais vous étiez enfant quand vous avez vu ça?
J'étais dans les 10, 12 ans, 8 ans, dans ce bout-là.
Parce que ma prochaine question, c'est le film qui vous avait le plus terrifié étant jeune, donc ça ressemble à ça. On va essayer de faire nos recherches pour essayer de trouver c'est quoi ce film-là.
Est-ce que ça serait The Countess in the Black Sabbath?
Je 1963? Ne le sais pas, mais je sais que c'est un grand classique.
OK.
Avez-vous un monstre préféré dans le cinéma?
Non. Je suis pas un fan de monstres.
Non? Des robots, cyborgs?
Oui.
Pas trop. est-ce qu'il y a une franchise que, peu importe, là, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir la suite, le remake, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça?
Ah oui, mais ça, il y en a beaucoup. Mais comme j'ai un fils de 15 ans, on va voir ça ensemble. Alors là, quand je vais retourner à Los Angeles, il m'a fait promettre qu'on allait voir le F7, Fast and Furious 7, tu sais. Et on va aller voir Quiet Place 2, que je n'ai pas vu.
Oui, je n'ai pas vu non plus.
Donc, je fais beaucoup de cinéma très commercial avec lui, il aime ça.
OK. Sinon, est-ce que vous avez un réalisateur préféré de cinéma de genre?
Non. C'est comme je n'ai pas d'acteur préféré. Je pense que il y a différentes personnes que je connais ou avec lesquelles j'ai travaillé que j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai connu Tobey Hooper, qui a fait du bon et du méchant,
oui.
Mais qui était un gars intéressant.
Oui.
J'ai connu Romero, qui était aussi très intéressant. Mm-hmm. Pour moi, ben, c'est facile à dire, peut-être le plus intelligent que j'ai jamais rencontré, c'est David Cronenberg. Intellectuel, c'est vraiment... Donc, c'est un niveau...
Une classe à part.
On parlera de Vidéodrome, ça a été des discussions, on n'a plus finir, lui et moi.
Je peux l'imaginer.
C'est le premier film qui m'est venu en tête quand tu as dit intellectuel. Je dis, il faudrait que je sois intelligent pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans Vidéodrome, parce que je pense pas que j'ai tout catché.
Moi non plus.
C'est ça. T'sais, puis on reviendra à ça, mais c'est ça qui est intéressant avec Cronenberg, c'est qu'il ne nous donne pas du pré-bâché. C'est tout le temps un peu indéfini. Tout le monde fait ses propres analogies. Il n'y a jamais vraiment de fin heureuse. En tout cas, moi, c'est un grand, là, je l'adore. Justement, votre film, ça, c'est une question un peu traître. Là, je l'avais vraiment écrit. Votre film de Cronenberg préféré?
C'est pas une question traître. En les revoyant au cours des années, c'est The Brood.
Ah oui?
Des films que moi, j'ai fait.
Mm-hmm.
Oui. En réalité, Scanners, ben, on a fait tellement bien avec Scanners. Mais c'est un gimmick. OK? Bon. Vidéodrome, très en fond, très intellectuel et tout. The Brood, oui, d'une certaine façon, ça va plus loin que le film d'horreur traditionnel. Mais il y a beaucoup de traditionnel dedans aussi. Il y a beaucoup de en tout cas, moi, pour moi, The Brood, c'est intéressant. On a essayé de le refaire, ça ne s'est pas fait encore. Mais okay. Ça, tout le monde rachète les droits des Cronenberg. Hein? Alors, je n'irai pas dans les détails parce que je n'ai pas le droit d'en parler.
Allez,
mais okay. On va finalement voir la série de télévision Scanners.
Ah oui, hein? J'avais entendu parler entre les branches, puis c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant. Sinon, un film de science-fiction là, dans vos préférés, ça serait... Je sais, c'est des questions tough quand même.
Moi, je pensais que tu aurais répondu quelque chose comme celui qui va me faire le plus d'argent.
Non. D'abord, je ne suis pas un grand fan de sci-fi, bien okay. que je m'amuse à voir un Star Wars ou des choses comme ça. Les films que j'aime le mieux, moi, c'est par exemple A Quiet Place, ou qui sont vraiment proches
l'attention.
D'une réalité. C'est du sci-fi, en réalité, que les monstres, on ne voit pas dans le premier, en tout cas. Mais c'est vraiment épeurant. C'est un mot, mais en tout cas, j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est le genre de film que j'aime regarder. Un film que moi j'ai fait, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, c'était Visiting Hours. Parce que quand j'étais jeune, j'allais avec mon père, jeune, 14, 15 ans, 12 ans, à son hôpital, l'Institut de cardiologie de Montréal. Et c'est lui qui l'a fondé. Alors j'allais le samedi avec lui. Puis je me promenais partout. Puis j'en revenais pas que n'importe qui peut se promener dans un hôpital. N'importe qui. J'ai dit, faut que je fasse un film d'horreur dans un hôpital. C'est comme ça que c'est venu.
Ah ouais, hein?
Et c'est là qui a finalement été le film des théâtricals de ceux que j'ai fait qui a le mieux marché.
Ah ouais, hein?
Okay. Ah oui. Et qui a rapporté le plus d'argent aux investisseurs. Oui.
Okay. Bien, on va jumper là-dedans tantôt dans Visiting Hour, mais je vais vous poser une dernière question. On la pose à tout le monde. C'est parce que je pourrais continuer votre film policier préféré, film préféré, mais on va y aller à la dernière question. Que mes collègues ici, mes amis aiment beaucoup. Est-ce que vous êtes plus Freddy ou Jason?
Est-ce que je suis plus Freddy ou Jason?
Ouais. On sent qu'il y a de l'amour pour
les deux. Peut-être un peu plus Freddy.
Oui? OK.
Oh. Yes. Je ne peux pas vous dire pourquoi.
Ouais, moi aussi. Il y a deux Freddy, il y a deux Jason dans nous.
Oui, effectivement. Et là, c'est Jason avait l'avance... par un point depuis le début. Là, je pense qu'on vient de tie-up. Ça, c'est rendu égal avec Freddy, ce qui est super intéressant. Moi, j'ai une petite question. Au début, vous parliez de Tax Shelter. Ça l'a permis de produire plein de classiques et ça l'a permis, en tout cas, ça l'a aussi fait produire des films, je pense, qui se sont jamais produits à cause de tout, qu'il y a eu de la fraude dans tout ça qu'on a entendu parler. Nous, on est très jeunes, fait qu'on n'a pas connu ça. Est-ce que le système était une bonne chose pour le cinéma? Est-ce qu'ils ont bien fait d'enlever ça, selon vous, ou c'est quelque chose?
Vous avez oublié une troisième catégorie.
Oh oui, allez-y.
Les navets.
Oh! Ouais, effectivement, ouais.
En fait, le malheur, c'est que les Canadiens ont scoré. Hein. Le malheur, c'est que il y a eu très peu de films qui ne sont pas produits. Il y avait tellement d'argent qu'on a tourné n'importe quoi.
Ouais.
Comme on dit en anglais, tu aurais pu tourner les pages jaunes du bottin téléphonique, puis ça aurait été correct.
C'est
les courtiers n'arrêtaient pas de m'appeler. T'as-tu un film? Quand j'ai fait la première tournée pour Film Plan, j'ai fait 3 films par année pendant 3 ans, les investisseurs, ils nous offraient plus d'argent que ce qu'on avait besoin. Alors, le malheur de ce système-là, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'il s'est fait... Il y avait un côté bon, il s'est fait des maudits bons films.
Ben oui.
Deuxièmement, il s'est fait des maudits mauvais films. Et troisièmement, c'était un système où tous les gens de la finance ont fait beaucoup d'argent. Les comptables, les avocats, les courtiers en valeur mobilière. Mais ce que personne ne parlait beaucoup, c'est que c'était de l'argent différé, mais un jour, il fallait payer Donc, le docteur qui mettait 100 000 $ dans le film pouvait déduire le 100 000 $ de ses revenus cette année-là. Alors, il était content, lui, il avait un film, il espérait faire de l'argent. Mais il y a beaucoup de films qui n'ont pas du tout rapporté l'argent qu'ils attendaient. Et au bout de 5 ans, quand la lettre de crédit était payable, il n'y avait pas les revenus pour payer ça. Alors, il fallait qu'ils sortent de leur argent à ce moment-là pour... Alors, ils s'attendaient que les revenus des films payent ça, mais dans 80 % des cas, les revenus des films ne payaient rien. Les navets, bien, c'est là. Alors, le système s'est écroulé parce qu'il y a beaucoup plus d'argent au bout de 5 ans qui était dû que d'argent qui était rentré.
Ah, vous, vous savez, ça, c'est un détail que jamais... Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce détail-là. Je trouve ça très, très, très intéressant de voir. Et là, présentement, au Québec, même au Canada, je pense que c'est assez difficile. Il n'y a pas de films qui se font vraiment au privé. C'est tout au travers de la Sodec ou Téléfilm, ces choses-là. Est-ce que c'est une raison pourquoi vous êtes exilé à Los Angeles en disant...
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Moi, je pense que j'avais monté la plus grosse compagnie de production et de distribution au Canada. On avait bureau au Vancouver, Montréal, partout. Je distribuais Roger Corman, je distribuais Afro Embassy. Je distribuais plein de gens. Vegas King vient de scorer. OK. Je distribuais plein de gens.
Les séries.
Je distribuais plein de gens. Et j'avais tourné beaucoup de films. Et il s'est ouvert une opportunité à Los Angeles. Mais j'ai dit, pourquoi là, je ne continue pas ma carrière ailleurs? Et je suis allé à Los Angeles parce que pour moi, c'était le centre mondial du cinéma.
Ben oui.
Pourquoi pas? Je n'avais pas d'attache d'enfant, de famille, vraiment. Et je suis donc allé à Los Angeles. Et puis là, il y a une deuxième partie de ma vie qui a commencé jusqu'à temps qu'une troisième commence, qui était quand je me suis reconverti en télévision.
OK. Vous êtes arrivé au début des années 80 à Los Angeles?
83.
En 83. OK. Donc, juste après Visiting Hours, qu'on parlait tout à l'heure.
Ça, c'est avec, avant.
C'est ça, hein? Au 82, avec William Shatner. Non seulement il y avait Michael Ironside, mais William Shatner, Captain Kirk.
Ben oui, puis vous oubliez aussi Lee Grant, qui était comme actrice féminine extrêmement réputée. Mm-hmm. William Shatner voulait à tout prix jouer le rôle de Michael Ironside.
Ah ouais?
Ah, il voulait se raser la tête, il voulait. Il m'a
supplié
de faire ce rôle-là. On a dit non, mais on l'a très bien payé pour la semaine qu'il est venu faire.
Ah ouais?
L'argent, c'était pas un problème à ce moment-là.
Ouais.
On n'avait pas d'hôpital où on pouvait tourner.
Mais c'était tourné à Montréal, ça. Hein?
Parce que les hôpitaux, ben, c'est pour les malades. Hein?
Ouais.
Alors, on a construit tout l'étage où on, lequel le film tournait, ça a tout été
construit. En studio? OK. Ouais.
Et après, on a tourné certaines scènes où il fallait vraiment que ça ait l'air hôpital. Et mon père m'a dit, OK, viens tourner à l'Institut Cardiologie, on va te laisser tourner. Alors, on a envahi ça un samedi.
OK.
Et c'était le temps où, dans ce temps-là, il n'y avait pas de protocole. Hein. On se promenait dans une salle d'urgence avec l'équipement puis tout ça. Les malades nous regardaient passer en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans ce temps-là, je pas de ça.
Et puis, justement, c'était Jean-Claude Laure. Hein? Vous avez travaillé beaucoup avec Jean-Claude Laure, plusieurs films. Par la suite, vous avez tourné The Vindicator.
J'ai tourné quoi?
The Vindicator.
Oui, ça, il faut cacher ça loin, loin.
Ah non, je ne l'ai jamais vu.
C'est
j'ai toujours voulu
mauvais,
le voir.
Ah oui, à ce point-là. Ça, ça s'est appelé plein de noms. Frankenstein, quelque chose.
Oui, 2000, oui.
Ça, ça a été un film fait par des distributeurs qui voulaient dépenser de l'argent en faisant ce film-là. Snippet est venu voir, voulez-vous le faire avec nous autres? Et que c'était mauvais. Je l'ai regardé une fois, puis...
Ah oui? Mais sur ce film-là, il y avait Pam Grier, hein, une des icônes du cinéma Blaxploitation des années 70, avec qui vous avez tourné par la suite, si je ne m'abuse, dans un film que vous avez réalisé, votre deuxième film, Serial Killer, avec Tobin Bell.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du tournage de ce film-là?
Oui, bien, d'abord, Pam Grier, formidable. Femme formidable. Ah, je l'adore. Quand j'ai créé ma propre compagnie, je Je me suis tanné des gros films de studio. J'en ai fait plusieurs. Platoon.
Oliver Stone.
Comment ça s'appelait, le film avec Richard Gere et Andy Garcia. Visiting Hours, mon film favori. Mais ça, c'est un film police. C'est pas un film d'horreur. Alors, j'ai commencé une compagnie avec René Malo comme partenaire qui s'appelait Image Organisation. Et il a fallu qu'on ait des films. Alors, moi, j'en ai fait une coupe. René en a fait une coupe. J'en ai fait quelques-uns avec Allegro à Montréal, Tom Berry dans ce temps-là, tout ça. Mais il fallait en acheter un peu partout. Alors, on a acheté beaucoup de films d'horreur. On s'est impliqué dans beaucoup de films d'horreur. Et j'ai décidé, moi, de réaliser. Alors, j'ai fait Scanner Cop.
Oui,
j'adore. Film. Avec, et après, comme je suis très attiré, j'aime beaucoup les romans, les histoires de ce qu'on appelle d'horreur réaliste. C'est pour ça qu'actuellement, on en reparlera tout à l'heure, ce que je fais maintenant. Mais j'aime beaucoup les films de psychose. J'aime beaucoup les bons. Alors, Serial Killer, ça m'a toujours intrigué, ce monde-là.
Ben oui.
Alors, j'ai décidé de développer un film comme ça. Et je ne reconnaissais pas Tobin Bell, mais je l'ai rencontré dans le casting, puis j'ai dit, c'est exactement mon caractère. Je connaissais très bien Kim Delaney, donc je l'ai fait rentrer dans le groupe. Et puis Pam Grier, puis tout ça. Et ça a été un tournage qui a très bien été.
Ah ouais?
Ah oui.
Puis vous avez aimé ça réaliser, parce que là, bon, vous avez réalisé seulement deux films, 94 et 95. Pourquoi?
Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps. Quand tu as une compagnie de production de distribution qui distribue 15, 20, 25 films par année, qu'il faut développer, qu'il faut acheter, qu'il faut vendre dans le monde entier, qu'il faut aller à tous les marchés et tout, j'ai dit, OK, j'ai réalisé, je sais ce que c'est. Je peux encore réaliser. Il y a trois jours, je l'ai fait pendant une journée sur mon film Clown d'Ottawa parce que je savais la vision que je voulais. Et puis les gens impliqués ne le comprenaient pas très bien, alors je l'ai fait, ça a été plus vite. Mais non, j'ai fait deux films, j'ai dit, j'ai compris, je sais ce que c'est. C'est une job à temps plein pendant un mois, au moins, j'ai pas le temps.
Mais vous l'avez fait, puis je trouve ça génial, parce que maintenant, vous savez, vous avez vu derrière, vous avez vu dans les yeux d'un réalisateur, puis maintenant, ça vous sert sûrement dans votre travail.
Énormément.
Ah, c'est très cool. Vous parliez tantôt de Scanner Cop, qui est le premier film que vous avez réalisé, avec quand même des pointures du cinéma de genre. Brian James, qui était le réplicant de Blade Runner, absolument patraque. Bon, Rutger Hauer, tout le monde parle de lui, mais Brian James était excellent. Là, la séquence de l'interrogatoire dans Blade Runner, c'est du bonbon. Richard Lynch aussi, qu'on avait vu dans un paquet de films de genre d'action. C'était comment travailler avec ces gars-là? C'est des character actors. Là. Ils ont une tronche, on les engage pour leur face, mais c'est des faiseurs. Là.
Pour être tout à fait honnête, c'est des pros. C'est des pros complets. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Où ils devaient le faire, comment ils devaient le faire. Ils faisaient leur travail très bien.
Pas trop besoin de les diriger. Les autres ils savent leur marque. Puis,
Oh non.
Excellent. Tantôt, c'est ça, on parlait de Scanners, Scanner Cup, qui est un peu un dérivé justement de l'univers de Scanner.
Mais il y en a
quatre,
hein?
Ben oui, c'est ça, avec Christian Duguay, qui a pris le relais avec Scanner 2 puis 3. J'ai vu, c'est sorti les deux en 91. Est-ce que les films ont été tournés en même temps ou back-to-back? Comment ça s'est passé?
OK, non. On en a fait... Je ne me rappelle pas quand on a tourné le premier Scanner, le Scanner 2. Mais ça, ça a été fait à Montréal. Et très rapidement, parce que c'est très bien vendu, c'est moi qui les vendais, on a fait Scanner 3.
OK.
Je pense que René est un peu tanné de les faire, Christian aussi et tout. Je lui ai dit, je vais prendre la relève, moi, je vais en faire un ou deux à Los Angeles. Et j'avais l'idée Scanner Cop. Mm-hmm. Donc, on a développé le scénario, on l'a fait.
Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous avez eu Pam Grier, puis là, vous avez eu Robert Forster dans Scanner Cop 2, Puis les deux fois, bon, c'est des acteurs qui étaient plus populaires des années 70, puis que Tarantino a ressorti avec Jackie Brown 2 ans après vous autres.
Ouais.
Vous avez été précurseurs quand même de retrouver ces acteurs cultes-là. Robert Forster, comment ça s'est passé avec lui?
Très gentil. Très facile. Aucun problème.
Ah, génial. Sinon, ben, on va retourner sur le cas de Cronenberg parce qu'on l'aime d'amour. On a parlé de Scanners. On est rendu à Vidéodrome 83 avec Debbie Harry, chanteuse de Blondie, James Wood. C'est quoi ce cast-là? C'est fantastique.
Vidéodrome, contraire de Scanners. D'abord, le financement a été très facile. Il y avait encore de l'argent de Tax Shelter. Les Universal Pictures ont dit, on veut rentrer dedans 50-50. Alors, ils ont mis la moitié, on a mis la moitié. Le script était complexe, c'est pour le moins qu'on peut dire, mais il était en béton. On n'était pas comme Scanners, où on écrivait le soir pour le shooting du lendemain matin. Ça n'a pas arrêté le fouillis de Scanners. Hein? Tout était prévu dans Vidéodrome. Tout était planifié. Tourné à Toronto. On voulait avoir des noms. Donc, Universal s'est mis avec nous là-dessus. Alors, ça n'a pas été difficile d'avoir James Wood. On a payé ce qu'il voulait. Puis, Universal avait tout le pouvoir à ce moment-là de pousser ses acteurs. Puis là, je donnerai le crédit à Tom Mann de Universal. Il dit, il faudra trouver quelque chose d'original pour le rôle de la fille. Pas juste une... Il faudrait trouver quelque chose. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, pas si c'est David, c'est pas moi, ou c'est quelqu'un d'Universal, a dit, pourquoi pas Deborah Harry?
Ah ouais.
Et elle avait bien envie de faire du cinéma. Donc, ça a été très facile à organiser. Le tournage s'est déroulé à la perfection.
Parce que c'est un film quand même qui a beaucoup d'effets spéciaux.
Du fouillis de Scanners. Complètement.
Vous aviez beaucoup appris, puis même David Cronenberg, j'imagine, au niveau réalisation.
Oui, mais pour être honnête, c'est pas vrai ça. Parce que je vais vous dire pourquoi. Oui, ça a très bien marché, parce qu'on voulait, parce qu'on avait le script bien avant, parce qu'on savait exactement ce qu'on tournait.
Ça, c'est sûr, ça aide.
David avait appris sur les effets spéciaux. Donc, le tournage a été magnifiquement bien, parfaitement. On a testé le film, comme on avait testé Scanners à Boston. Ça a été un désastre.
Oh non.
Un désastre, mais j'étais là, je voulais me cacher en dessous des sièges.
Un désastre dans le sens que les gens réagissaient pas?
Le monde sortait. Les cotes, les rapports qu'ils font étaient désastreux.
Ah ouais.
Et la réponse, très, très simple, c'est le film est en avant de son temps, il n'y a pas long de doute là-dessus. Alors, Universal ont diminué l'ampleur de la sortie.
Ah ouais, de la publicité, le marketing.
Du tout. C'est intéressant. Un film qui avait été le fouillis complet au tournage, a été un triomphe. Vidéodrome qui était parfaitement planifié, produit et tout, a été un désastre. Par contre, c'est devenu un film culte parce que c'était le monde de la vidéo.
Ouais.
Et tout d'un coup, les gens l'ont découvert en vidéo. Ouais. Et il s'est vendu des centaines de milliers de copies. Ouais. Universal n'ont pas perdu une scène. Ça a marché très bien. Donc, les deux films ont bien marché différemment.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, ben, c'était le film parfait pour la vidéo avec justement le vidéo qui rentre dans le ventre. C'était justement parfait. Puis comme vous disiez, vraiment en avant de son temps, tu sais, on parlait de c'était de la télé-réalité avant que ça arrive. Complètement fou ce film-là, vraiment surréel. Puis c'est un coup de génie, Debbie Harry, qui avait déjà un aura de mystère. C'était une chanteuse, tu sais. Blondie, c'était de la musique avant-gardiste à l'époque aussi. Quand elle a fait sa carrière solo, elle est allée chercher Giger pour faire sa pochette d'album. Elle a fait un vidéoclip avec lui. T'sais, tu voyais déjà qu'elle frayait avec des trucs plus marginaux. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. Puis j'imagine qu'on commence à manquer de temps. On va avoir une chronique bientôt. Mais moi, je voulais vous parler d'un petit film que vous avez produit en 1997, Wishmaster. de Robert Kurtzman, le cas de KNB FX Group. Je pense que c'est un de ses premiers films qu'il a réalisé. Il avait écrit From Dusk Till Dawn, tout ça. Mais la liste, le casting de ce film-là est complètement fou. Juste Angus Scrimm de Phantasm, Joe Pilato de Day of the Dead, Ted Raimi, Dan Hicks qu'on avait vu dans Evil Dead 2, que Martin et Steve adorent, même Freddy Krueger lui-même, puis Wes Craven à la production aussi. Est-ce que vous avez pu travailler en direct avec Wes Craven?
Oui, absolument. Wes Craven, oui. Wes Craven, il vendait son nom n'importe quand, lui, aux gens qui payaient bien. Alors, la compagnie Live voulait avoir le nom de Wes Craven, Wishmaster.
C'est ça, hein?
Ils ont fait 100 000 piastres, quelque chose comme ça, puis il l'a acheté, il y a tout de suite, vous pouvez shooter n'importe quoi avec si vous payez 100 000 piastres.
Il n'a pas été impliqué du tout, donc. Il avait juste son nom. Il avait juste son nom et il a prêté son Freddy. Comment ça s'est passé, ce tournage-là, avec toutes ces pointures-là? Est-ce que ça se pilait sur les pieds? Il y avait quand même
des gens qui ont... Moi, c'est pas un de mes films favoris.
Ah non?
Je trouve le film très moyen. Mais encore une fois, en vidéo, il a très bien marché.
Il y a eu beaucoup de suites aussi.
Oui, mais les suites, on en passera.
Moi, j'aime mieux... Je vais vous donner un exemple d'un film que vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, mais que je trouve belle fun dans le film horreur, c'est The Dentist.
Yeah! C'est ça. Vous avez réalisé avec... Brian Yuzna qui a réalisé.
Oui.
Il y avait les gars...
J'ai été très impliqué dans les deux dentistes.
Ah oui,
là, j'ai eu du fun là-dessus.
Avec Stuart Gordon aussi, Dennis Paoli, toute la gang de Reanimator.
J'ai bien aimé finalement ces films-là parce que... tout le monde a peur d'aller chez le dentiste. Hein?
Ouais, alors, exact.
Je trouve qu'on a tout de suite frappé le bon créneau. Tu sais?
Puis l'acteur.
Hein? Stop.
Corbin,
Non. Écoute, Burton, moi, j'ai adoré. Là, j'adore. Là, je prends mon pied. Là, mon nouveau dieu, c'est Monsieur Pierre David. D'ailleurs, tout ce qu'il y avait avant, j'ai tout fait sauter, mais je veux quand même avoir... parce que nous, ce qu'on a à dire, c'est rien. Toi, c'est largement meilleur. Mais par contre, maintenant, je veux que tu nous racontes cette fameuse anecdote que tu voulais nous parler tout à l'heure. C'était avec qui déjà? Je m'en souviens plus.
Oliver Reed.
Je suis sûr qu'elle va être exceptionnelle.
Oui, alors, Oliver Reed... Il y a des amis qui me disent « On t'a engagé Oliver Reed, prépare-toi. »
Ah ouais?
Quoi? Il est fou. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Bon. Alors, Oliver Reed arrive à Toronto. Moi, j'étais à Toronto la moitié du temps. Il est foufou. Il boit beaucoup.
Okay.
Il est très agréable, mais il boit.
Okay.
Je dois retourner à Montréal. Donc, je pars pour Montréal. Et je reçois un coup de fil vers 11h, minuit le soir. Oliver Reed est en prison. J'ai dit, why? Parce qu'il a pris un pari avec quelqu'un de la production qu'il allait aller du restaurant à son hôtel de Four Seasons, tout nu. Il a enlevé tous ses vêtements dans le restaurant. Il est parti à marcher sur la rue. La police l'a arrêté. Il l'a emmené au poste. J'ai dit, mais c'est épouvantable. J'ai dit, oui, mais le bon côté, c'est qu'il fait rire toute la station de police.
Ben oui, c'est clair.
Tout le monde salue. Alors, ils lui ont donné des vêtements. Ces vêtements avaient disparu quelque part. Ils lui ont donné, je ne sais pas quoi, une chemise d'un policier et un pantalon d'un autre. Puis ils l'ont emmené à son hôtel. Ils ont dit, s'il vous plaît, refaites pas ça. C'est drôle, on a eu du fun avec vous. Ils ont tous signé les autographes, mais on ne peut pas promener sa rue à Toronto.
Mais
bon. Tous les deux jours, il y avait quelque chose de même. Un soir, il a décidé de jeter par la fenêtre toutes ses affaires, de tous les draps de l'hôtel, toutes les couvertures, tout sur la rue principale. Alors, ils ont
dit,
de façon de le contrôler mieux, faites venir son frère de Londres. Son frère sait comment le contrôler.
Ça, il était britannique, lui.
Le frère était dans l'avion le lendemain.
Wow.
Et le frère buvait autant que lui. Alors, on avait peur tous les jours de qu'est-ce qui va arriver. Mais il a fini le film. Ces maudits Anglais-là, ils peuvent boire comme des trous le soir. Richard Burton était comme ça. Puis il arrive sur le set le lendemain.
Frais comme une rose.
Parfait.
Ah ouais, hein?
Ah oui, ça c'est reconnu, hein?
Fait que, beaucoup d'entraînement dans les pubs. Hein? C'est ça qui est arrivé. Là. Wow! Savoureuse anecdote. On a-tu encore un peu de temps? Je pense que oui. Hein?
On va prendre le temps qu'il faut. On a encore un peu de temps. On arrive vers la fin du show. Bon, après le générique, on reste tout le temps un peu avec notre invité pour poser deux, trois autres questions. Moi, je veux parler un petit peu de films d'action après puis de tournage à Montréal, mais on va laisser Christophe le finir un petit cinq minutes, puis après, on passe au générique, puis après, on se reparle.
Parce qu'il y a tellement de films le fun dans votre filmographie. C'est juste trop le fun d'avoir les petits bouts croustillants ou les anecdotes comme ça. Of Unknown Origins de George Cosmatos qui est allé faire Rambo 2, Cobra avec Stallone, Leviathan avec Peter Weller qui joue justement dans ce film-là. Peter Weller qui justement il a eu sa fête le 24 juin, qui c'est pas aujourd'hui du tout, hein, parce que vous avez beaucoup plus tard que ça, l'entrevue. Ben, Peter Weller dans ce film-là, Luis Del Grande, hein, lui qui se fait exploser la tête dans Scanners, Shannon Tweed, l'ex-playmate et épouse de Gene Simmons.
Ça, c'était mon idée, ça.
Ah oui?
C'est mon ami Shannon. C'était mon meilleur. Ah, je la voyais tout le temps, oui.
OK. Racontez-nous ça. Vous l'avez rencontré comment?
Elle est canadienne, hein? Je ne me rappelle pas.
OK.
Mais on est devenus amis. Je suis d'ailleurs devenu ami aussi avec Gene Simmons. On allait super ensemble, beaucoup.
Ah ouais.
Et il a trompé tout le temps. Mais en tout cas... Il est connu pour genre. Ça, mais ouais. Shannon, c'est une fille de tête. Une fille, et je me suis dit, elle très bien avec la femme modèle, la femme que tu tiens à ton bras, tu sais, puis tout ça. Ça faisait très bien pour le caractère. Ouais. Et George Cosmatos, avec lequel j'étais très ami, il l'a adoré aussi.
Puis ce film-là a été tourné à Montréal, je pense aussi.
Oui, ça a été tourné en studio, oui.
OK, OK. Oui, Steve, tu allais dire quelque chose?
Non, mais je vais pour dire que je vais juste faire une petite parenthèse sur Shannon Tweed. On dirait que c'était. Elle jouait dans beaucoup de films un peu horreur, érotique dans ces années-là. Fait qu'en tant qu'adolescent, je me rappelle très bien de Shannon Tweed. Puis elle fait plus de films.
On sait très bien pourquoi tu t'en rappelles bien, mon cochon.
Non, mais elle jouait dans je me rappelle plusieurs films qui ont comme marqué mon enfance là, de films d'horreur. Faudrait que je regarde, là, mais elle joue dans beaucoup de films d'horreur quand même.
Ben oui. C'est très cool.
Ouais, puis elle a arrêté de faire des films présentement, je crois. Elle ne tourne plus du tout.
Non.
Non? Complètement mis ça de côté.
Puis sinon, Steve a vu récemment un film qui s'appelle Pin 1988.
Effectivement.
Avec un fameux mannequin anatomique. Est-ce que vous vous rappelez, Pierre, la première fois que vous avez vu ce mannequin-là?
Je me rappelle, je l'ai produit. C'était le premier film que notre compagnie Image avait fait à Montréal.
Okay.
C'est un très bon script.
Oui.
Je trouve que le mannequin avait été très bien fait.
Ah oui.
Et c'était un peu épeurant, merci, même en studio ou dans les locations. Et le film avait pas mal bien marché aussi.
C'est un petit classique qui est connu. Et il y a quelques mois, sur le Facebook de la Cinémathèque québécoise. Durant la pandémie, je pense qu'ils faisaient du ménage et sont tombés sur le mannequin. Ils ont fait un post disant qu'ils avaient retrouvé le mannequin
dans,
dans leur collection, etc. Donc, c'est là que je me suis dit, j'ai jamais vu ce film-là. J'ai fini par le trouver en DVD grâce à Film Fanatique. J'étais chanceux. Et je l'ai regardé peut-être qu'il y a comme un mois ou deux mois environ. C'est vraiment un bon... C'est très psychologique. Et j'adore l'acteur. Je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais il a joué dans le beau-père.
Je ne me rappelle pas de son nom. Je sais que Cynthia Preston était la fille. Elle a beaucoup tourné dans mes films après. Elle vient en faire un an pour moi.
Terry O'Quinn.
Je ne me rappelle pas du nom du gars.
Mais l'acteur qui a joué dans The Stepfather s'appelle Terry O'Quinn. Il a joué aussi dans la série Lost.
Terry, c'est...
C'est ça, oui. Ouais. Ça, c'est Terry.
Le Stepfather, un de mes films préférés, d'ailleurs.
Ouais, ben, les trois sont bons. Les trois films sont excellents. J'aime beaucoup de Stepfather. On arrive à la fin de notre heure. Comme je dis, moi, j'aimerais ça qu'on discute une petite quinzaine de minutes de plus après le générique. Pierre, j'aimerais ça savoir, présentement, vous nous avez dit que vous produisiez 20 films cette année. J'aimerais ça qu'on parle un peu de Pierre David maintenant. On a parlé de Pierre David avant, pour savoir c'est quoi les films que vous produisez. Est-ce que c'est encore dans l'horreur? Puis moi, je suis un gros fan de films d'action, fait que j'aime les Lethal Weapon, Weapon et Martial Arts, ces choses-là. Je vais remercier tout de suite tous les gens qui nous écoutent, les Bières Philosophales, Films Fanatiques, nos commanditaires. On est sur Facebook, Apple. On est maintenant sur Patreon aussi. On met tout le temps des extras sur Patreon, dont en route. Donc, je vais inviter les hommes blancs à finir cette belle petite émission-là. Puis après, on revient puis on discute une autre petite quinzaine de minutes. Là. Pas trop longtemps parce qu'on veut voir la fin de la game d'hockey.
Oui. Merci beaucoup.
Écoutez, le mot de la fin, en fait, déjà, ça veut dire je vais me répéter, ce qui arrive très peu, mais là, il faut que je le dise. Ça y est, Pierre David est mon nouveau dieu. Donc, je voudrais savoir si les gens qui nous écoutent, c'est aussi leur nouveau dieu. Allez-y dans les commentaires, balancez. Moi, amen. Voilà, c'est tout. Et puis, mais quand même, une petite dernière pour la route, hein, parce que on va pas se quitter comme ça. Est-ce que vous savez qui est seul et qui se balade en bande? Non? C'est simple, c'est une momie.